les clés à bonnet.
Les clés à bonnet. Radio Canu, émission féministe.
Mademoiselle Rose a assommé, a tabassé Colonel Moutarde avec une clé à bonnet.
Sous le pavé, les bonnettes.
Protection placée sur un microphone.
Radio Canu.
Pour limiter la captation des bruits.
Émission féministe.
T'as besoin d'une bonnette de 10 ou de 11 ?
Pour déboulonner le patriarcat
et tous les systèmes d'oppression.
Pour construire des ondes féministes.
Et pour démonter les masculins.
Comme un coup de boulette sur les ondes.
Les clés à bonnettes.
Les clés à bonnettes.
Indispensables à votre boîte à outils.
Pour déboulonner les patriarcats.
Pour démonter les masculins.
Allez.
Pour construire des ondes féministes.
Il va partir ce clown.
Les clés à bonnettes.
Émission féministe.
Radio Canu.
Radio Canu.
Un vendredi sur deux à 18h.
Ne lâchons pas notre créneau.
Los de siempre quieren plata.
Tienen el culo forradito la rata.
A los papitos de corbata se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura y perreo hasta en medio la basura. Somos caleta, más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco.
Saca la tela, ve con cautela.
Bienvenue, on a 18h, alors on commence notre émission des bonnettes. Aujourd'hui, semble-t-il, consacrée au cinéma, et plus particulièrement aux réalisatrices et à leur production. Donc on va vous faire un petit panel de choses qui nous ont plu.
C'est vraiment à découvrir, à se souvenir des films qu'on a vraiment aimés. Qu'on avait envie de partager, non ?
Qu'on a aimé, qui nous ont plu pour des raisons esthétiques ou politiques.
Et très diverses, ouais. Et après, on a fait un branche assez longue, c'est-à-dire on a passé pour toutes les années. Il a pas, c'est pas que des films actuels.
D'ailleurs,
ouais. Mais il a quand même, et il a des films un peu plus vieux, plus alternatifs, plus commerciels. C'est assez large, je pense.
Ouais. En tout cas, si tant est que vous ayez besoin de recommandations, je pense que il est probable d'en avoir quelques-unes.
Je pense que vous avez aussi un long sélection, on va dire.
Oui.
Ça dépend un peu l'envie que vous avez, et on recommande peut-être des noter à côté, des vues, ou si vous vous dites, ça pourrait être intéressant pour les futurs. C'est toujours bien d'avoir cette liste.
Voilà, pour ne pas se retrouver le soir.
On vous partagera aussi sur les blogs après l'émission, mais... N'hésite pas. Bon, on commence, non ?
On commence. Alors moi, je vais commencer par un film qui s'appelle L'une chante, L'autre pas, d'Agnès Varda. Donc c'est un film des années 70 qui parle de pas mal de choses, mais notamment c'est tourné plutôt autour de sujets tels que l'avortement, tels que les relations hommes-femmes, tels que la vie de bohème fantasmée et la réalité. Donc on a toute une quantité de choses qui nous questionnent sur ces relations-là des années 70, bien sûr. On a même une apparition de Gilles Halimi lors d'un procès où une personne est condamnée du fait de son avortement. Donc voilà. Et en fil rouge, on a une relation d'amitié entre deux femmes qui s'appellent Pomme et Suzanne. Et donc on sait qu'on est dans les années 70 aussi parce qu'elles choisissent comme support les cartes postales. Donc voilà. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Alors c'est certes et absolument à recontextualiser. On n'est clairement pas sur la conception de ce qu'est une femme qu'on aime avoir ici, mais c'est un peu plus, voilà. Mais quand même, c'est assez témoin de ce qui s'est passé quand, pour cette lutte pour le droit à l'avortement. Donc là, on sait que c'est actuel, n'est-ce pas? Donc,
malheureusement.
Voilà. Et puis, il y a de la folk, pas mal. Et puis, même des chansons un peu comédie musicale qu'on va écouter là.
Juste avant, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut les voir si les...
Alors, celui-là, il est dispo sur Mubi, mais du fait de sa popularité et du fait que ce soit Agnès Varda, je vais juste faire un détour autour d'elle. Parce que bon, elle mérite quand même de faire un détour. Donc, c'est une réalisatrice qui est originaire de Sète. Et qui a fait quantité de films, à la fois documentaires, mais aussi des films un peu plus scénarisés. je peux citer par exemple le film Les Glaneurs et les Glaneuses, Cléo de 5 à 7, ce type de film qui nous plonge voilà, dans des vies des années 70-80 et avec un regard de cette réalisatrice qui est très très beau, avec une photographie très intéressante. Et puis ça, c'est une personne absolument inspirante, donc je vous conseille d'aller fouiller son travail. Et donc on va écouter cette chanson.
C'est possible de le trouver même dans les bibliothèques.
Alors oui, c'est possible de trouver dans les bibliothèques, c'est possible de trouver sur YouTube, je pense, parce que c'est assez vieux.
Pas du tout ça, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont intéressés à chercher ce type de films sur Internet. C'est possible que ces personnes pourraient les trouver.
Voilà, après un abonnement à la médiathèque, c'est pas la mer à boire non plus.
Exactement.
Donc on a la chance de pouvoir en
avoir. On vous laisse avec la musique, non?
Ouais.
C'est comment les titres?
L'une chante, l'autre pas.
Super.
Voilà.
On va avec ça.
Glissant sous les ponts d'Amsterdam, sur un bateau mouche hollandaise. Nous les éclopés de la baisse, nous les mamselles, nous les madames, les maladroites et les niaises, les distraites et les abusées. On a fait, ne vous en déplaise, la croisière des nanas avortées, des nanas avortées. C'est pas romantique le Vaporetto. Après la clinique, Amsterdam sur eau, tulipes et vélo, je m'en souviendrai. En voyant passer les vélos, on a parlé de la pilule, nos amours au fil de l'eau, de nos enfants, de nos ovules. On a ri, on a dégoisé, sans avoir peur du ridicule, sur un bateau trop avoisé, baladant des nanas avortées, des nanas avortées. C'est le même lot, le même malaise, Amsterdam sur eau, tulipes et vélo, je m'en souviendrai.
Alors, donc on revient sur un autre film maintenant, on va passer à un différent film qui malheureusement c'est pas une réalisatrice qui l'a fait, mais qu'on a décidé de parler quand même parce que c'est un film, un classique aussi sur la filmographie, on va dire de ciné américaine, et il s'appelle Thelma et Louise, c'est des années 91, et c'est dirigé par Ridley Scott, mais qui était aussi fait pour les scénaristes, c'est Cali Curry, qui a aussi gagné, c'était son premier scénario, et son premier scénario, il a gagné quand même l'Oscar des meilleurs scénarios originaux, donc c'était pas c'est pas n'importe quoi, et voilà, il faut faire comme ça, non? Et bien, cette film qui date déjà, ça fait 30 ans, ça part d'un... Je trouve que c'était une histoire qui, on pourrait dire, très très actuelle, ou qui nous peut paraître très féministe dans cet scénario, mais que c'était fait à un moment où aux États-Unis, au moins, c'était pas... un moment vraiment très fort de féminisme, donc c'est un film qui est, c'est ce que j'ai su dans l'histoire, c'était qu'au début il voulait pas les faire parce que c'était un film avec un sujet un peu très polémique et avec une finale qui, on va parler d'une scène finale assez classique, spoiler si vous voulez voir le film et vous connaissez rien du tout,
bouchez les oreilles.
Exactement, ça fait comme un 30 ans, donc on s'autorise à parler de cette finale parce que peut-être vous aurez déjà au courant, mais quand même, hein, même si vous savez les finales, ça valait le coup de regarder les films. Carrément. Moi, je l'ai vu deux fois, je l'ai vu une troisième fois. Ça me paraît encore très attirant comme film. Et en fait, à la base, justement, c'était Kali, la scénariste, qui a écrit ce scénario, qui a cherché comment le faire. Et Ridley Scott, le réalisateur, c'était aussi connu pour Alien, peut-être, et pour des autres films. Vous les connaissez. Et lui, il ne voulait pas les faire. Il a dit, bah, c'est un très bon film, mais c'est un film qui me paraît qui doit être fait pour des femmes. Ça part d'un sujet assez... Ça me paraît... Et ça sentait pas assez légitime. Sauf qu'à ce moment-là, il a essayé de passer les films pour différentes personnes et personne ne voulait les faire. Donc, à un moment, ils ont pris la décision de les faire quand même, de les diriger. Mais il a pris aussi la décision qui, à ce moment, c'était quand même pas très normal d'inclure justement la scénariste dans la réalisation, dès qu'il prend des décisions. Et même les deux comédiens qui sont Jenna Davis et Susan Sarandon, c'est aussi peut-être vous connaissez quelques-unes. Et Jenna Davis aussi, elle a fondé en 2004 un institut en gender in media, qui fait des recherches sur les disparités de genre dans les médias et qui a pour but de réduire les stéréotypes entre filles et garçons dans les émissions de programmes destinés aux enfants. Et bon, Susan Sarandon, peut-être aussi vous les connaissez de temps en temps. Et actuellement, elle a récemment participé aussi à la cause Palestine et elle a partagé des publications de Roy Waters, mais aussi. Et elle a participé à pas mal de manifestations et s'était accusée aussi d'antisémitisme et exclue de l'agence d'artistes UTAE, United Talent Agency. Donc on doit que là-bas, c'est pas évident de s'engager politiquement. Mais on part quand même, je voulais juste vous dire que c'était des artistes qui étaient assez engagés. Et bon, à cette époque, c'était les 91, on avait dit, et le film, elle part des deux femmes, Thelma et Louise, qui sont des potes. Il y a une qui travaille, l'autre qui est femme au foyer, et qui décide de faire un voyage ensemble, de faire un petit voyage week-end, partir ailleurs en voiture. Tout paraît bien, mais en fait, vous commencez les films, vous pensez que c'est un bon comédie de samedi, après-midi, voilà, sympa. Juste, elle décide de passer à un bar, passer un bon moment là, elle prend de l'alcool. Normal, tout va normal jusqu'à il y a un gars dans cette barque qui commence à parler beaucoup avec Thelma, qui commence à les draguer. Elle est bien. Elle est alcoolisée, on va dire. Elle a sa pote qui est pas loin. Elle, normalement, elle est mariée, mais elle essaie de profiter de sa vie. Et à un moment, bon, lui, il voit qu'elle va pas bien. Elle sort dehors avec elle, sort les deux, et elle essaie de les huiler. Et à ce moment-là. Bon, je raconte ça, je ne vais pas raconter tout le film, mais il a Louise qui arrive et qui décide de la défendre, qui a un pistolet, et qui finit par tuer ce mec qui essayait de violer sa pote. Et là, on commence un peu l'aventure, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Qu'ils se sont défendus, mais qu'est-ce qu'il peut faire après ça? Est-ce qu'ils vont les croire? Et quelle décision prendre? Et là, ça commence vraiment le film, ce voyage. Donc vraiment, c'est très très recommandé. Comme vous pouvez voir, c'est un sujet très très d'actualité, avec une scène magnifique à la fin, mais on ne va pas trop parler de ça pour ne pas vous raconter toute l'histoire. Mais je veux juste partager avec vous un dernier... comment dire, c'était un film qui a marqué beaucoup de gens. Et juste un année après, c'est-à-dire les 92, il y a les chanteurs argentins déjà, Fito Páez, qui a fait un album qui s'appelle L'amour después de l'amour, l'amour après l'amour, et il a sorti une chanson qui s'appelle Dos días en la vida, ou Deux jours dans la vie, qui part effectivement sur le film. Je ne connais pas tellement de chansons qui partent sur cette histoire directement sur un scénario d'un film. Ça, c'est le cas. Donc, je vous partage un peu la chanson qui, justement, elle part de Thelma et son cowboy qui la sort maintenant. Pourquoi du mal, je voulais m'échapper. Les types essayent de la violer. Lui stampe, sort de là. Tout va supplier. Pitié, ou je t'expose la tête. Porc et pique. Porc et à pique. Bon, pour vous dire une traduction, bon, je vous laisse avec la musique et après on verra un autre film. Et ce film, hein, je ne sais pas aussi, il est sur les réseaux, mais...
Il est régulièrement quand même sur Arte, voilà. Me semble-t-il.
Voilà, c'est, ça ne me choque pas. Bon, c'est quand même un classique.
C'est un classique et puis...
N'hésite pas à aller revoir.
Oui, il faut le regarder et ça redonne foi un peu... je sais pas, la sororité aussi.
Parfois. Oui, mais en fait, c'est un film qui est, c'est, on pourra dire que c'est pas un final très joyeux.
Oui.
C'est pendant dans l'espoir.
Oui. Je sais pas si ça on n'en ressort pas au fin fond du trou.
Non.
Vous pouvez y aller tranquille.
On sent que c'est quand même voilà, sororité, le choix, il y a ainsi sa relation, et qui ça a d'actualité aussi.
Ouais. Après, ça dégoûte quand même des gros dégueulasses, c'est certain, mais...
En fait, on pourrait dire qu'effectivement, j'ai entendu quelqu'un qui parlait du film, que c'était vraiment un film qui, l'ennemi, c'est les patriarcats, en grand terme. Parce qu'il y a même des mecs qui sont un peu sympas, qui essaient de les aider et tout ça, mais on voit la figure, parce qu'à ce moment-là, elle était critiquée pour être misogyne, non. Pardon, et misanthrope, c'est-à-dire que c'était qu'il détestait les hommes, les filles, qui n'étaient pas justes, qu'il profitait aussi, c'était un qu'il promouvait, c'est un,
c'est une promotion de
promotion de la misandrogynie, donc et aussi du suicide.
Ah oui, non, mais de toute façon, on fait dire ce qu'on veut après au film, mais si vous le voyez, vous saurez très bien qu'on n'est ni dans l'un ni dans l'autre.
Ni dans l'un ni dans l'autre, justement, mais bah, comment changer les temps, moi, sur certaines choses, heureusement. Bon, on vous laisse avec la musique de Fito Páez, Dos días en la vida.
Fantastique morceau, hein. Franchement, c'était super.
On vient de connaître un peu de musique qui sont pas trop écoutées ici. Je vous recommande Fito Páez.
Franchement. On va continuer avec un film qui est sorti tout récemment, qui s'appelle Les Merveilles de Alice Rohrwacher. Alors, c'était disponible sur Mubi. C'est la même réalisatrice de Eurocom Lazzaro, par exemple, qui, je sais, a eu un grand succès. Donc, si jamais, peut-être que vous la redécouvrirez à travers cet autre film, qui est sur papier pas très intéressant, mais en fait, ça l'est. Enfin, je trouve, en tout cas. Donc, c'est une histoire d'une famille qui est apicultrice. Et donc c'est une famille plutôt d'une famille allemande qui sont installés en Italie et donc ils ont pour projet de faire des ruches bio, enfin bon bref, du miel à leur sauce avec une sauce plus anticapitaliste et alternative, voilà. Sauf que bah ça se passe pas vraiment comme ils veulent et comme ils veulent. Et donc prend la responsabilité d'énormément de choses, la protagoniste qui est donc l'aînée de la fratrie et donc elle aide à tout, hein. Elle aide à ramasser le miel, elle aide à s'occuper des frères et sœurs, elle aide à rassurer les parents qui sont complètement à l'ouest, mais bon, comme peuvent l'être des parents, c'est ils sont humains. Simplement, bon, elle a beaucoup de choses sur les épaules et un jour, elle se balade avec sa sœur et en fait, elle tombe face à une Monica Bellucci sublime dans une rivière, bon, qui est en train de tourner une pub pour un concours qui va être un concours des meilleurs agriculteurs de la région pour représenter l'agriculture antique. Et donc, l'eau de ce concours, en fait, pour les gagnants, il y a une émission de télé-réalité, entre guillemets, sur leurs conditions de travail, et aussi de l'argent, si je me souviens bien. Donc, elles se disent avec sa sœur que ce serait vachement bien que sa famille soit élue, enfin, que leur famille soit élue, et donc elles vont essayer de mettre à. Enfin, voilà, la famille au pas et de leur donner l'idée sans braquer leur père qui est complètement siphonné et puis leur mère qui est clairement assez proche d'un état dépressif sans vouloir faire de diagnostic sauvage, mais ça n'a pas l'air de trop aller. Je vous le conseille parce que c'est très beau et puis ces personnages d'enfants ils sont formidables, le jeu d'actrice est formidable, vraiment, voilà. Et puis c'est un petit peu qu'est-ce qui existe quand on veut se lancer dans l'agriculture alternative, parfois ça se passe pas comme on veut. Voilà.
Bah oui, c'est de cette année, de l'année.
Il me semble que c'est 2022, mais.
C'était quand même. Je pense qu'il a un peu une idéalisation aussi, des fois, qui ont l'air sur revenir à la nature et la campagne.
C'est ça. Et en fait, on se retrouve dans un bled et les services de l'hygiène viennent et nous disent ça va pas du tout là. Va falloir tout nettoyer, tout changer, acheter je sais pas combien de kilos de matos. Enfin bref, ça le fait pas. Alors, dans second film, un thème vachement moins léger, enfin bon, si tant est que ce soit plus léger ce dont je viens de parler, c'est le film Mustang. C'est un film de 2015, donc il date un peu, vous l'avez peut-être vu passer, de Dennis Gamzee Helgeven. Donc c'est, pour faire rapide, je vais vous lire le synopsis parce que sinon je vais y mettre trop d'émotions. C'est le début de l'été, dans un village au nord de la Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l'école en jouant innocemment avec des garçons. La dépouille supposée de leur jeu suscite un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l'école et les mariages commencent à s'arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées. Voilà, ça pose le cadre.
Ouais.
Voilà, si je veux redire un petit peu des choses avec les mots que je peux imaginer choisir. Bah, en gros, c'est des jeunes filles qui ont hyper chaud, c'est l'été, canicule, et elles vont se baigner avec leurs vêtements. Et donc, elles ont des camarades, filles et garçons. Et donc, elles jouent à ce jeu, je pense qu'on l'a toutes et tous fait, où on s'escalade et puis on se bagarre
oui,
sur les épaules des unes ou des uns. Et donc elles font ça, et puis en fait les ont vu faire des personnes qui sont de vraies balances, et donc ils sont allés balancer à leur famille ce qu'elles étaient en train de faire, et ça prend des proportions inouïes parce que elles, enfin les personnes qui les ont vues les considèrent comme des perverses, et puis leur famille emboîte le pas quoi. Elles sont d'accord, enfin voilà, elles en tout cas elles essaient de mettre tout en place pour déjouer l'impact de la rumeur. On connaît les impacts que peuvent avoir une rumeur, donc là voilà, c'est la catastrophe. Et donc ces jeunes filles, elles vont être complètement coupées du monde, vestimentairement parlant. Je me rappelle que il y a cette scène où elles sont avec des vêtements et elles disent que c'est que des vêtements couleur merde. Ça pose un peu le contexte.
Voilà. Mais en fait, je pense un peu, c'est disait qu'on est enfant et qu'on ne sent pas trop les genres.
Oui.
Et jusqu'au moment.
C'est ça.
Voilà. Et après, oui, il y a des cultures peut-être que ça peut être plus fort ou des contextes qui vont déterminer. Et...
Mais là, tant mieux, quoi. C'est des enfants. Enfin,
ouais, justement. Voilà. On était des enfants et jusqu'à un moment, on comprend qu'il y a...
C'est ça. Et donc, elles vont être complètement façonnées par leur famille pour devenir de futures épouses. Mmh. Et bon, voilà. Et donc, ça va se finir de manière tragique. Je ne vous spoile pas. En revanche.
Ça va l'écoute comment de le voir.
Ouais, je vous recommande de le voir absolument, et aussi pour des moments de fulgurance et de d'émotions folles où en fait ces cinq sœurs, elles sont très habiles et très malines, et elles arrivent malgré tout à se faire des sorties fabuleuses, et ces moments-là, c'est à pleurer d'émotions de joie quoi. On est avec elles tout le long. Et c'est un film qui est important, je pense, de voir justement lorsqu'il est quand même question parfois d'idées qui nous parviennent de fermeture d'esprit, sans porter de jugement par ailleurs, mais en tout cas voilà, pour savoir quels sont les impacts que peuvent avoir une rumeur et quels sont les impacts que peuvent avoir les on-dit dans des familles.
Après ça, on les vit quand même.
C'est ça.
C'est un peu importe de où.
C'est ça. Donc voilà, c'est très injuste et terrifiant ce qui se passe pour ces jeunes filles, mais c'est important de regarder ça pour s'en souvenir. Voilà, je vous ai déposé quelque chose.
Ouais.
Et puis je vais terminer par un dernier film, alors absolument rien à voir pour le coup.
C'est bien un peu cette différence.
Voilà.
On peut voir tout. Hein.
C'est ça, un film, plus agricole, un film un peu de mœurs, et puis le dernier film, c'est un film plus léger qui s'appelle Pieds nus sur les limaces. Je l'ai vu il y a très longtemps, de Fabienne Berthaud, et donc c'est l'histoire de deux sœurs qui viennent de perdre leur mère. Bon, a priori c'est pas très léger non plus, mais elles ont une manière d'appréhender la vie de tout à fait différente. Il y en a une qui est ce qu'on pourrait appeler marginale. Mmh. Elle vit seule, recluse, enfin pas recluse, mais en tout cas dans sa petite maison. Et puis elle fabrique et bricole des milliards de choses, des mobiles, des trucs assez effrayants d'ailleurs. Et puis l'autre sœur est vachement rangée, mais pas bien plus heureuse. Et puis voilà, il va se tisser des liens de femmes adultes qui sont des sœurs et qui doivent s'entendre malgré tout. Et surtout compte tenu de ce qui vient de se passer. Voilà, il va se jouer des libérations de certaines émotions au travers de la folie de l'une d'autres émotions aussi qui vont être plus rassurantes à travers la rigidité entre gros guillemets de l'autre. Voilà, c'est assez joli. Et moi j'adore, je suis très très fan de Ludivine Sagné. Je la trouve excellente dans ce film. Donc
super. Bon, on a très recommandations très très différentes selon peut-être l'état qu'est-ce qu'on cherche.
Hein. Ouais.
Bon, moi je vais passer à une autre recommandation qui comme vous pouvez écouter, c'est italien. Et là, on va revenir un peu à les pressions. C'est un film de 2023, c'est-à-dire l'année dernière. Et qui a eu très 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 grand succès en Italie, c'est-à-dire que c'était après en fait la Vita è Bella. Juste après ça, c'était un grand phénomène dans le cinéma, dans les affiches. Donc c'était alors j'étais allée au cinéma aller voir parce que justement ils m'ont parlé de ce film qui a eu tellement de succès. Et en fait, c'est dirigé pour... en italien, c'est Ancora domani. En français, c'est Il reste encore demain. C'était réalisé par Paola Cortellesi, et qui écrit aussi les scénarios. Qui écrit les scénarios, c'est vraiment de la vie des femmes après la Seconde Guerre mondiale en Italie. Et plutôt inspiré sur des histoires racontées par sa propre grand-mère ou sa mère. Donc là, on a pour raconter vite fait l'histoire, on est en mai des 80, bah, pardon, des 1946, juste après la guerre. Rome est encore après, il a des alliés qui sont déjà dans la ville. Il a la pauvreté aussi. Les élections, un référendum institutionnel et l'élection de l'Assemblée constituante. Et ça va être la première fois que les femmes vont avoir les droits à voter. Donc c'était important un peu pour donner les contextes. Et justement, Delia, qui est la protagoniste, elle est mariée avec Ivano. C'est une femme, elle ne travaille pas, elle est à la maison. Et elle se partage entre les tâches ménagères et des différents emplois. Et elle a trois enfants, une fille adolescente. Et la première SM, pour ne pas vous dire plus, c'est... Alors, je vous dire, ça part des violences à la famille, des violences conjugales. Donc il dit salut et reçoit un coup immédiatement. Donc on commence immédiatement sur ça. Et c'est un film en blanc et noir. C'est artistiquement, je trouve que c'est très intéressant. On peut dire, on pourrait critiquer si on aime bien. C'est un peu, il met un peu la musique actuelle et la musique de cette époque. Il va faire un peu des raccourcis artistiques pour nous montrer cette histoire. Mais je trouve que c'est immédiatement cette approche. Ça raconte un peu des trucs un peu sur... C'est l'histoire sur la protagoniste, qu'est-ce qu'elle va faire, s'il va réussir à se libérer de son mari, etc. On verra dans cette histoire, mais ça part surtout en fait sur les situations des femmes et en Italie, pas qui est en Italie bien sûr, mais qui est pas si loin si on pense. On parle des grand-mères, on parle des mères. Mmh. Ça m'a fait beaucoup penser personnellement à ma famille aussi. La réalité, je ne sais pas si c'était exactement ça, mais effectivement. On parle des violences physiques, mais il a la violence psychologique et il a l'opportunité de parler de quelle place on occupait dans la société aussi. Mmh. Il faut dire aussi qu'elle travaillait pour lui donner de l'argent à son mari et c'était surtout faire les enfants. S'il cuisinait mal, c'était un coup. C'était tout très, très. C'est une vie très dure d'imaginer, je pense. C'est dire que c'est pas si loin en fait. Par de 60, 80 ans de distance. Mais probablement, on a des expériences assez proches avec cette réalité. S'il avait sa fille, qui les questionnait un peu pour ne pas réagir en face à cette violence. Donc, on va avoir aussi cette relation. Et il y a plein de personnages, des femmes qui participent au film, des différentes classes sociales aussi, et qui nous montrent comment c'était un peu la société à cette époque. Bon, je vous recommande vraiment les films, c'était très bien pour les voir. Mais aussi, je vous raconte un peu les contextes, parce qu'en fait, c'est explosé. Et aussi, malheureusement, ça a tombé en même temps avec un féminicide qui était passé en Italie, le 11 novembre 2023, c'est-à-dire juste quelques semaines après dès que le film était lancé, et c'était Giulia Cecchettin qui a été assassinée pour son ex-petit ami Filippo Turetta. C'est une étudiante de 22 ans qui était prête d'aller à la fin du cours à une fête, en soirée, et voilà, il apparaît après d'une manière brutale, évidemment. C'était terrible. Et en fait, ça a ému un peu à tout le pays, même la Giorgia Meloni, c'est-à-dire la première ministre, qui on sait bien que c'est bien des droites, qui a décidé de faire quand même un hommage et de créer un minute de silence dans tous les établissements scolaires. Sauf que la sœur de Julia, Elena, elle a écrit une lettre ouverte dans le Corriere della Sera pour demander qu'en fait, il ne faut pas faire un minute de silence, au contraire, il faut faire une protestation bruyante. C'est-à-dire, elle a fait un minuto di rumore, c'est-à-dire de faire un minute de bruit, de répondre et faire des bruits pour Julia, et on n'efface pas une minute de silence. En fait, on brûle tout. Et en fait, effectivement, ça a réparti pour tout, pour les universités, même à la Chambre des députés. C'est vraiment un impact très important dans l'Italie, et même Elena, elle disait dans sa tribune qu'on ne pouvait pas parler d'un monstre pour parler de Filippo Turetta, l'assassin. C'est, les monstres ne sont pas malades, ce sont des enfants sains du patriarcat de la culture du viol. Effectivement, on est bien d'accord, et c'est malheureusement c'est une situation qui est terrible qui va pousser cet mouvement, mais heureusement il a une réaction de toute la partie de la société italienne face à ça. Et même effectivement il y avait naturellement un lien entre les films et ce type de manifestation, donc il a eu plein de affiches, des phrases de films qui sont sortis dans les manifestations ou les marches blanches, où il avait même la réalisatrice. Donc il a eu une histoire où il avait quelqu'un qui avait une étudiante qui avait une affiche de film, et la réalisatrice qu'il a vue et qu'il allait à l'embrasser et à la remercier. Et bon, j'ai résumé un dialogue qui était dans un des films qui part un peu du sens du film, hein, qui c'est Te pero sei un tempo. C'est la mère qui le dit à sa fille quand elle lui demande si c'est ok sa relation avec son prochain copain, et quand elle commence à regarder des trucs qu'elle avait vus déjà avec son mari. Et sa fille, elle lui dit va, pour tes mains, pour toi aussi, il reste encore de temps, maman. Bon, je vous laisse avec une chanson, la chanson de film, une chanson de film, mais cette fois-ci interprétée pour la réalisatrice Paola Cortellesi. Je cherche les chansons.
Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò, e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. A me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca, e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura, e solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì lo so, sono sempre quelle, ma uscite il sole a me mi sembrano più belle. Scuola e lavoro, che temi originali, se non per quella vecchia idea di essere tutti uguali.
E senza scuola per proteggermi le armi per difendermi, i caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca, se mi tagli pure questa io non mi fermo. Scusa, canto pure a bocca chiusa.
Là, on écoutait la version de la chanson de A Bocca Chiusa de Daniele Silvestri, si vous voulez les chercher. Et maintenant, je vais passer à un autre film assez actuel aussi, mais là, on va passer un peu à un sujet un peu plus léger. Je pense que ça avait un peu besoin de une comédie plus light, plus drôle. Et cette fois-ci, les films s'appellent L'amiga de mi amiga, c'est-à-dire l'ami de mon ami. Et c'est un film de l'espagnol Saida Carmona. Et c'est un film sur une bande de potes lesbiennes à Barcelone. Donc, pour raconter un peu ce qu'il s'agit, je vais mettre directement la bande-annonce qui raconte un peu qu'est-ce qu'il s'agit en espagnol avec une petite traduction de ma part. Mais je pense que vous comprendrez quand même. Bah, c'était pas celle-là. Désolé, on commence à... Et là, ça devrait y aller. Là, c'est bon.
Esta historia empieza cuando Zaida, después de una ruptura, vuelve a Barcelona y se encuentra con Rocío, su amiga. Rocío tiene una novia, Lara, que tiene una amiga, Aroa, que tiene una novia, Julia.
¿Cómo no? Zaida Carmona, mi peor pesadilla.
A Zaida le gusta Lara, pero también Aroa. Julia deja a Aroa para enrollarse con Rocío. A Rocío le gusta Julia, pero no quiere dejar a Lara. Y Lara...
Tía, es que... no sé.
Está hecha un buen lío.
Bon, vous avez compris un peu l'histoire d'amitié et de romance qui Zaida, après un rupture, revient à Barcelone et rencontre Rocío, sa pote, qui a justement une petite amie, qui c'est Lara, qui a une amie, qui c'est Aira, et qui a une petite amie, qui c'est Julia. Donc Zaida aime bien Lara, mais aussi Ainhoa, et Julia rentre avec Ainhoa pour être avec Rocío. Donc Rocío aime bien Julia, mais ne veut pas quitter Lara. Et Lara, voilà, c'est les bordels. Après, je peux vous raconter un peu les histoires des... qui, peut-être, ça vous dit quelque chose un peu connu sur des histoires, des amours, des amitiés, qui est un peu confus, etc. Bon. Peut-être, je pense qu'il y a des choses qui nous font penser un peu à une série assez classique, qui, peut-être, quelqu'un entre vous connaître. Je ne sais pas si tu connais.
Oui.
The Hell World. Cette série assez incontournable pour la communauté lesbienne qui nous fait penser aussi à cette toile. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage d'Alice.
Ah non.
Je ne sais pas si ça t'a dit quelque chose. Bon. On laisse un peu la musique quand même pour ambianter cette histoire. Bon, je reviens juste à cette anecdote que je trouve très drôle en fait. Les toiles, c'était une idée qui avait cette personnage d'Alice, dès que tout le monde couche avec tout le monde et que toutes les lesbiennes sont connectées les unes avec les autres. Donc Alice a conçu un immense tableau recouvrant tout le mur de son appartement sur lequel elle s'amuse à relire des entrées des crayons toutes les femmes de sa connaissance qui en ont eu une relation sexuelle ensemble. Pour prouver que la race crée un site en internet et met de la toile en ligne. Et comme ça, on pense comment tout commence à ajouter les fils des épisodes, des ajouts, des noms, et chaque lesbien pouvoir s'inscrire son nom. Et là, on a une grosse toile énorme, un peu.
J'adore.
qui est pas si loin de la réalité, j'y vais. À voir, chacune, c'est une histoire, mais. Effectivement, en fait, l'histoire aussi, c'était qu'une des scénaristes, il disait qu'effectivement, il avait connu un autre scénariste de Hell World. Et sans connaître la personne, elle a dit bah, je suis sûre qu'il y ait, et on peut tracer plein de liens entre nous via nos amis et nos sexes. Et sans commencer à faire ces flèches, littéralement les toiles. Et après, ils se sont dit alors, il y a eu une autre personne qui est arrivée qui a ajouté un corps de lien, et ils ont décidé de mettre cette idée, l'amour, dans les séries.
C'est génial.
Donc, effectivement. J'adore. Ces films, c'est un peu sur ces lignes. Si vous voulez un peu plus s'amuser, rigoler un peu, se voir peut-être identifié sur les écrans, vas-y, c'est une bonne idée. Je pense que c'est sur Mubi aussi.
Ok.
Peut-être si vous voulez raccourir.
Fantastique.
Donc, ce qu'on passe sur un de tes films, où on passe. J'ai une chanson sinon pour.
Eh bien, moi je peux passer.
Vas-y, tout à tes
regarde.
c'est, je peux mettre un peu de musique pour te souvenir de cette film.
Alors, le film que je vais vous présenter là, c'est un méga classique. C'est un film qui a été. Je pense qu'il a été réalisé il y a au moins 10 ans, qui s'appelle Frida, de Julie Taymor. Donc voilà, si vous avez en tête des autoportraits de Frida, Frida jouée par Salma Hayek,
oui,
est absolument là-dedans.
Ouais.
Moi, je l'avais vue quand j'étais au collège. À la fin de l'année, on avait eu la chance voilà, d'avoir des jours un peu off et la maman d'une de mes meilleures amies est prof d'espagnol. Et donc, elle nous avait montré ce film. Et j'en ai encore des souvenirs en fait, de cette première projection. Je crois que je l'ai revue depuis, mais c'était trop beau. Et voilà, donc c'est un peu un biopic. Je pense qu'il y a un petit peu de prise de liberté, mais on a relativement bien l'histoire de la vie de cette peintre et artiste, et donc qui débute comme chacune et chacun le sait si vous êtes intéressé par son travail, par un accident de elle piéton dans un bus. Voilà. Et donc qui l'oblige à être alité pendant une quantité de temps infini, temps pendant lequel elle poursuit la peinture et sa peinture prend une autre ampleur. Et en fait, voilà, toute sa vie va être jalonnée de moments tragiques qui vont être le fruit, enfin, desquels elle va tirer la beauté de son art, en fait.
Bah oui, après on saura jamais si comment aurait été l'histoire de sa vie sans cet accident.
Oui,
bien sûr.
Tout à fait.
Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que ça jouait, ça termine énormément son art après et peut-être un peu la nostalgie qu'il y a derrière. Elle décidait de faire les autoportraits aussi. C'était bien pour cette condition de vie un peu. Ah, même s'il a quand même a eu une vie et social assez important.
Oui, mais c'est assez intéressant ce film justement parce qu'il décrit ce qui s'est passé, je trouve, avec clarté et neutralité, notamment la relation qu'elle entretient avec Diego Rivera.
Ouais. Un peu toxique quand même.
Qui était toxique et en fait ça se voit et ça se laisse comprendre par le choix des images et le choix des dialogues. Et ça aurait été dommage de romantiser ça parce que c'est une grosse production pour rendre ça.
Oui, et on part en production que c'est quand même. Ça date un peu au sens de que peut-être actuellement, si il ferait ce film, ça aurait une autre ambition, peut-être un peu.
Je ne sais pas, mais possiblement.
Oui, et cependant, c'est pas romantisé, même à cette époque-là. Non.
Ouais, c'est une bonne chose, je trouve.
Oui, carrément. Après, ouais, voilà, c'était un artiste assez incroyable, mais ça nous pose des questions. On se redit, c'est l'art d'être. Je veux juste ajouter, parce que j'ai vu juste après un film qui s'appelle, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est un documentaire, je pense que je l'ai vu sur Netflix, sur Chavela Vargas. Chavela Vargas, c'est une chanteuse mexicaine, contemporaine à Frida. Et en fait, dans ce documentaire, elle déclare qu'elle était amoureuse, justement, de Frida. Et que voilà, c'était un amour un peu folle parce qu'apparemment Frida, si je ne me trompe pas, on ne voit pas trop ça dans les films, mais elle a eu quand même des aventures avec plein de mecs et des femmes et tout. Et voilà, ça sera intéressant quand même d'avoir aussi cette perspective. J'aimerais bien voir sur les écrans cette histoire d'amour entre Frida et Chavela, qui est une femme aussi intéressante, très intéressante à suivre.
À un moment, elle a une histoire d'amour avec une femme, mais je ne sais pas si c'est.
Et c'était sur le film.
Dans le film.
Oui, peut-être c'est pas Chavela, mais normal. Ça ne me choque pas qu'elle ait eu pas mal de amours, quand même. Mais c'est un beau film.
C'est un film magnifique. Ouais. Les couleurs sont sublimes. La photographie est trop belle. Si vous voulez passer un bon moment et être complètement ailleurs, c'est ça.
Ouais. On laisse une des chansons.
Oui.
Carrément.
Vida no hay, no hay más lluvia, no hay, no hay más brisa, no hay, no hay más risa, no hay, no hay más llanto, no hay, no hay más miedo, no hay, no hay más canto, no hay.
Cuando alguien se va hay, no hay más fuego, no hay, no hay más vida, no hay, no hay más vida, no hay, no hay más rabia, no hay, no hay más sueño, no hay.
Connu.
Pour moi, c'était une surprise.
Hein. Ouais, de quelle voix très connue il s'agit. Et donc, on, voilà, je pense, je vous laisse aller. 3, 2, 1. Shakira.
Ah. Ouais, elle a fait quand même la bonne musique. On a,
oui,
on a des bons
mots.
Après, on peut discuter sur les actuels, qu'est-ce qu'on pense selon
après,
notre critère.
Voilà, chacun voit. Hein.
Voilà.
Midi à sa
elle, a fait... elle a ses chansons quand même. Bon, je vais aller avec mon dernière recommandation d'aujourd'hui. Ce qui est quand même, on a dit, il y a plein de films. Peut-être on réfère à recommandation. On n'a pas parlé encore des séries même.
Mmh,
mais bon,
fait.
Pour vous recommander cette film qui s'appelle After Sun, Sous le soleil, la version, la traduction française, c'est 2022. C'est les premiers longs métrages de la directrice écossaise Charlotte Wells. C'est un coming of age drama film sur la relation d'un fils préadolescente avec son jeune père. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept de coming age. C'est un peu cette époque entre, on va dire, 12, 13, 14, qu'on commence à passer d'être enfant à être adulte,
oui,
ou adolescent. Et qui normalement, c'est 30 ans, c'est très marquant.
Coming of age.
Coming of age.
Okay.
Il a littéralement un terme anglais pour définir ce type de film. Parce que si vous pensez, il a pas mal de films. C'est pas, je pense à ce moment, Lady Bird.
Ouais.
Et assez actuel. Mais avant, il existait quand même pas mal de films sur cette période de la vie. Et qui est assez intéressant. Donc, ça tombait un peu sur ce moment. Mais c'est quand même un film très spécial parce que ça s'est focalisé sur des vacances que cette jeune fille a eues avec son père. Et son père qui a une trentaine des années. Donc, justement, c'est ce que j'ai aimé beaucoup de ce film. C'est qu'il y a, bon, un peu de la directrice, elle raconte que c'est un peu une histoire très personnelle.
Mm.
Parce qu'elle a 30, entre 30 et 40 années. Et on commence le film en regardant qu'il a une femme des 30 ans, on va dire, une personne adulte, qui va garder des VHS, des tapes, des vidéos, des VHS des années 90, de cette vacances. Et c'est un peu, c'est parce qu'elle avait justement une caméra à ce moment, une caméra classique, et qu'elle avait enregistré des choses, qu'elle avait enregistré comme pour des vacances. À cette époque, c'était assez régulier, peut-être des certaines familles qui avaient l'accès à avoir des caméras.
Ça revient d'ailleurs.
Ouais. Et en fait, ce sont des choses que j'aimais beaucoup. C'était un peu cette nostalgie des années 80. Il faut dire, personnellement, c'est très lié à l'âge que j'avais à ce moment-là. Donc, la musique et cette temporalité un peu sans Internet, qui est très différent, non? Le monde, ça, les portables qui sont toujours connectés, c'est un autre vie que certains on a eu l'opportunité de vivre et qui maintenant, ça nous fait un peu, voilà, c'était le monde différent. Et aussi, voilà, les VHS, moi aussi j'avais une caméra, donc c'est très, très proche à mon enfance. Et il a ce côté un peu nostalgique, mais pas qu'il y a. En fait, c'est très bien ce film qui nous raconte un peu l'histoire de cette relation fille-père, avec un père qui même, je pense, la réalisatrice les voit maintenant et essaie de les comprendre comme adultes.